Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Vous l'avez peut-être entendu aux informations, Laurent Wauquiez s'en va la droite en miettes. C'est le titre du Figaro ce matin, invité dimanche soir du journal télévisé de TF1. Le président des Républicains, contesté depuis l'échec cuisant de son parti aux européennes, a annoncé sa démission. Et c'est Jean Leonetti qui assurera l'intérim. Pour évoquer cette actualité politique fournie en France, nous sommes en compagnie de Nicolas Rousselier. Bonjour, vous êtes historien et maître de conférences à Sciences Po. Que vous inspire cette démission de Laurent Wauquiez ?
Écoutez, c'est une démission qui évidemment peut, dans un premier temps, apparaître comme une surprise parce que les chefs de parti n'étaient pas en tête des listes européennes. Et c'était le cas évidemment pour les Républicains, puisque c'était François-Xavier Bellamy qui était justement une nouvelle figure, qui avait pris en quelque sorte la place du chef de parti. Donc la démission est assez inédite. Je ne crois pas que dans le passé, les élections européennes avaient entraîné finalement la chute de chef de parti. Mais la réflexion que cela m'inspire, c'est qu'au-delà même de l'anecdote ou de l'aspect conjoncturel, j'y vois là un aspect peut-être plus important, plus intéressant. Il faudra bien sûr que ce soit confirmé. À savoir qu'un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques, probablement, se rendent compte que le poste même de chef de parti, c'est d'être à la tête d'une organisation, qui est souvent synonyme de bureaucratie, de lourdeur, devient contre-productif. Et là, il y a peut-être un changement historique. Souvenez-vous l'époque François Mitterrand, et ça va jusqu'à François Hollande, où le poste de chef de parti, secrétaire général du Parti Socialiste, avec le terme qui paraît maintenant totalement dinosaure, de secrétaire général, c'était non seulement productif, positif, mais c'était le véhicule de l'accès au pouvoir, puisque derrière, le parti se mettait en marche, et puis surtout, d'une certaine manière, tous les médias se concentraient sur le rôle du chef du parti. Or là, on voit que c'est probablement d'ailleurs une démission par opportunité de la part de Laurent Wauquiez, c'est qu'en fait, il va chercher des marges de manœuvre, une plus grande distance, une plus grande liberté par rapport à une forme partie qui devient trop lourde et trop, comme je le disais, trop contre-productive. Mais c'était déjà le cas d'autres personnages. En fait, la droite en miettes, elle est déjà en miettes depuis déjà un certain temps, puisque on voit que ces comportements d'électrons qui se libèrent du parti, c'était le cas de Xavier Bertrand, dans une large mesure de Valérie Pécresse. Donc, et on voit ça aussi à gauche. Faut-il rappeler ici que les élections primaires, par exemple pour le Parti Socialiste, n'avaient pas entraîné, de la part des vaincus des primaires, une discipline par rapport aux vainqueurs et une discipline de parti. Donc, discipline, parti, bureaucratie, organisation, tout ça, c'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Il faut s'en débarrasser pour essayer d'être présidentiable. C'est ça, en fait, c'est... Aujourd'hui, la question qui se pose, on va voir comment ça se déroule, c'est comment peut-on fabriquer un présidentiable ? Et la voie traditionnelle de la fabrique du présidentiable est en train de changer.
Que vous inspire, sinon, les causes de cette démission, en tout cas la situation des Républicains après l'élection européenne, après le fait que le choix de François-Xavier Bellamy, autrement dit un philosophe, vous êtes universitaire, mais l'idée finalement qu'il y aurait adéquation ou inadéquation entre un chef politique et un philosophe, un intellectuel. Qu'en pensez-vous, Nicolas Rousselier ?
Oui, bon, c'était quand même un peu une exception, parce que les autres leaders des listes européennes n'étaient pas, comme lui, d'origine universitaire.
Il y avait un essayiste.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y avait aussi Raphaël Glucksmann. C'est vrai.
Bon. Ça fonctionne ou pas ?
Écoutez, si on regarde les résultats, ça ne fonctionne pas.
C'est peut-être lié à d'autres causes.
C'est peut-être lié tout à fait à d'autres causes. Faudrait voir. Moi, ce que je remarque, si vous voulez, c'est que, justement, c'était peut-être aussi un aveu déjà quasiment freudien, c'est-à-dire mettre en avant quelqu'un qui n'a pas la marque du parti, qui voulait incarner un renouveau intellectuel, à la place du chef de parti. Donc finalement, tandis que par exemple, Bardella, du Rassemblement National, est nouveau, mais il faisait tout à fait... membre du parti, militant, pour dire apparatchik, pour être un peu critique. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, on voit qu'il y a des tentatives de renouvellement. Donc, on prend des nouvelles têtes, on va chercher dans la supposée société civile. Ça ne marche pas non plus. Mais pourquoi ? Parce que les Républicains sont attachés à cette figure, cette étiquette de parti de gouvernement. Et moi, ce que je retiens des élections européennes, ce n'est pas simplement une défaite des partis de gouvernement, c'est même une humiliation en termes de résultats, mais je pense qu'il y a une crise de la nature même du parti de gouvernement.
Vous dites, la droite en miettes, ça n'est pas nouveau, parce qu'il y a eu des départs, départ de Xavier Bertrand, prise de distance de Valérie Pécresse, c'est un fait, mais sur le plan idéologique, sur le plan des idées, on a accusé la ligne Wauquiez, alors les uns disent, cette ligne était trop à droite, qu'en pensez-vous ?
Oui, on peut dire ça, mais au fond, quand Sarkozy avait réussi, lui, à être élu à la tête de l'État, à l'élection présidentielle, il y avait aussi une ligne qui était nettement à droite. Et dans ce cas-là, ce que l'on dit, c'est qu'elle avait réussi à siphonner l'extrême droite, les voix de l'époque du Front National. Donc au fond, la vérité d'un moment n'est pas du tout la vérité du lendemain. Pourquoi ? Parce que on est dans une situation de tout le monde le dit, mais d'une transformation considérable à la fois, je dirais, des véhicules, c'est-à-dire des partis qui sont en crise, et notamment quand c'est des partis de gouvernement. C'est-à-dire le fait même d'avoir été au gouvernement devient maintenant la raison pour laquelle on est défait aux élections. Et puis vous avez aussi une transformation du comportement des électeurs. Ça, c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire que ce que l'on disait autrefois, finalement, c'est que les élections se faisaient sur une marge d'électeurs qu'on appelait, c'est pas très joli, mais qu'on appelait électeurs volatiles ou électeurs stratèges. Les 10% qui changeaient d'avis dans les trois derniers mois, parfois les trois derniers jours. Et je crois que ces 10% sont maintenant devenus quasiment la majorité de l'électorat. Donc on a maintenant une masse d'électeurs, peut-être la majorité, qui sont les fameux électeurs volatiles, stratèges, qui changent d'option, parfois au dernier moment, et qui font que les élections sont difficiles à prévoir et occasionnent des surprises.
Bon, elles ont été en tout cas difficiles à prévoir pour les Républicains. Nicolas Rousselier, vous qui êtes historien et maître de conférence à Sciences Po, l'autre hypothèse pour les Républicains est celle selon laquelle leur discours n'était pas cohérent parce que d'un côté il y avait un philosophe qui est plutôt conservateur, de l'autre il y avait un discours qui était plutôt pro-européen. Est-ce que ça, par exemple, ça n'est pas du tout une bonne manière de se présenter pour un parti de droite aujourd'hui ?
Encore une fois, je crois que essayer de prendre une grille de lecture qui concerne au fond, si vous voulez, le marketing politique, l'idéologie,
de non, se les dire idées.
Oui, les idées, mais même les idées au sens traditionnel. Se dire Bellamy était trop conservateur pour un électorat qui est quand même moins conservateur. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne grille. Je pense qu'aujourd'hui, l'élection européenne, qu'est-ce qu'elle marque ? L'élection européenne marque en fait la deuxième mort, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette expression, la deuxième mort de l'ancien monde. Parce que la première mort, c'était le passage du PS à 6%. Et maintenant, les Républicains, donc l'autre parti de gouvernement, rejoint quasiment le même score de 8%. Donc on a une confirmation du passage de l'ancien monde au nouveau monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit dans le nouveau monde ? C'est qu'il n'y a que des partis, sauf bien sûr La République En Marche, qui sont en quelque sorte fondés sur des mouvements et non pas sur cette étiquette de gouvernement.
Mais précisément dans ce que vous appelez le nouveau monde, on assiste à une évolution de la politique. Certains parlent de décomposition. On voit que la gauche est à moins de 30% des voix, que la droite est aujourd'hui, en tout cas je parle de la droite dite de gouvernement, est réduite à sa portion congrue. Bref, qu'arrive-t-il à la politique française ? Est-ce que La République En Marche, c'est tout simplement un nouveau parti de droite ? Est-ce que dans ces conditions, on aurait affaire à une question d'étiquette et pas une question d'idéologie ou d'idée ?
Moi, je crois beaucoup à une récomposition vraiment au sens structurel du terme. C'est-à-dire que les véhicules ne sont pas les mêmes, les outils ne sont pas les mêmes. Du coup, le comportement des électeurs n'est pas le même. Prenez par exemple les figures qui émergent, que ce soit à l'extrême gauche, à gauche, ou bien même à droite ou à l'extrême droite. Ce sont des figures qui prennent leur distance avec la forme parti, avec l'organisation du parti, qui utilisent notamment des médias, qui deviennent eux-mêmes le médium à travers leur chaîne YouTube, à travers leur mise en scène permanente. Et c'est très individualisé. Finalement, cette nouvelle politique est un économiseur de partis. On n'a plus besoin de passer par une organisation lourde. On n'est donc plus dans la démocratie de partis. On est dans ce qu'on peut appeler, je ne sais pas si le terme est bon, mais on peut appeler ça la démocratie des électeurs, où au fond vous avez un rapport direct entre des équipes qui sont très attentives au réseau, qui sont très attentives à la construction de réseaux sociaux et qui peuvent construire comme ça, qui peuvent construire un véhicule, une marque en quelque sorte, qui est pratiquement liée à une personne. Je pense par exemple à François Ruffin, à l'extrême gauche, ou bien les personnes de la droite qui émergent, peut-être comme Xavier Bertrand. Alors il y a parfois une assise institutionnelle, dans ce cas-là c'est le président d'une région, mais on avait eu un précédent qui était un peu hybride, qui était à la fois encore à l'intérieur du parti et à l'extérieur, qui était Ségolène Royal. Ségolène Royal, on le sait, avait joué un peu contre le parti, mais elle était passée encore par l'intérieur du parti et par les primaires. Mais là, je pense qu'on est dans une étape ultérieure qui va encore plus loin dans la décomposition-recomposition. Hein, parce qu'en fait, on décompose jamais pour aller totalement dans le vide. Là, on n'est pas dans le vide, on est dans des réseaux sociaux, on est dans des formes de mobilisation qui sont très efficaces, qui d'ailleurs ont comme vertu d'augmenter la participation électorale. Donc ça, tout parti confondu ou tout type de mouvement, on peut créditer finalement l'année politique que l'on a vécue, Gilets jaunes compris finalement. D'avoir repolitisé une grande partie du débat et du pays. Donc, si vous voulez, la décomposition, oui, mais ça n'est pas pour être dans une anomie.
Mais finalement, la Ve République, elle est née avec un homme qui avait fait un parti autour de lui. Je parle bien entendu de Charles de Gaulle. Et le gaullisme était aussi une drôle d'équation idéologique avec un parti qui n'aurait pas existé sans cet homme. Est-ce que, alors sans vouloir faire de comparaison compliquée, est-ce que finalement le fait qu'il y ait aujourd'hui de la France insoumise à la République en marche, des partis construits autour d'une personnalité, est-ce que ça n'est pas une forme de retour aux sources plutôt qu'une décomposition?
Oui, je suis tout à fait d'accord. La comparaison est assez bonne entre le premier moment de la Ve République, 58-62, ça prend plusieurs années pour se mettre en place, où on a une recomposition complète. On a effectivement à la fois la droite en miettes, la droite parlementaire en miettes à cette époque-là, et la gauche aussi en miettes et en déroute électorale. L'équation de Gaulle, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'était assez moderne, sauf qu'il n'y avait évidemment pas les réseaux Internet, c'est que c'était sur des réseaux. C'est-à-dire que de Gaulle revient aussi au pouvoir grâce aux réseaux qui sont réactivés, les réseaux de la résistance, que ce soit même à l'intérieur de la haute fonction publique ou bien dans l'arène politique. Et il prend comme Premier ministre Michel Debré, qui évidemment faisait partie de ses fidèles. Donc on a un phénomène comme ça de recomposition. Aujourd'hui, moi je dirais qu'il est quand même plus systématique, il est plus global, et encore une fois, il ne profite pas à la force de gouverner, il ne profite pas au gouvernement, au fait gouvernemental. C'est ça la grande différence, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, si vous voulez, les gagnants sont les mouvements qui ont, en tout cas en apparence, l'organisation la plus légère, ou en tout cas l'organisation finalement la plus chaotique. C'est étonnant que les Verts, qui sont pas connus pour être les plus organisés, les plus disciplinés, les plus efficaces dans leur processus historique d'organisation. J'ironise un peu, mais justement, c'est presque en fait ce défaut qui devient une vertu. Parce que les électeurs n'ont pas vu les Verts comme une bureaucratie, une organisation, des types qui sont désireux de tout de suite prendre le pouvoir. Ils les ont vus comme une cause. Donc la cause, si vous voulez, remplace la doctrine, ou la cause qui anime le mouvement fait face aux vieux partis qui incarne le gouvernement.
Et le fait justement de ne pas se réclamer de droite ou de gauche. Alors ça a très bien fonctionné pour les Verts, ça a moins bien fonctionné pour la France insoumise. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bien, c'est ça, c'est-à-dire que pour lancer une cause, je crois qu'il faut surtout la sortir de l'ornière traditionnelle du clivage droite-gauche, clivage droite-gauche du XXe siècle. Et c'est ce qu'essaye de faire à peu près tout le monde, en fait. Aussi bien l'extrême droite, le Rassemblement national, les Verts, France Insoumise a essayé avec le populisme, l'idée qu'il fallait être inclusif. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon dans une interview au journal Le 1, à savoir qu'il faut être inclusif et non pas clivant.
Donc, Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le clivage droite-gauche traditionnel doit être dépassé si on veut casser le plafond de verre.
Jean-Luc Mélenchon peut être perçu comme étant parfois clivant.
Oui, c'est bien pour ça que son résultat est mauvais.
Parce on voit mal en fait en quoi il a été inclusif, sauf peut-être à abandonner donc ce mot de gauche que certains chez lui trouve minorisant et rebutant.
Ah oui, non, mais je suis bien d'accord. Il y avait une analyse théorique qui était assez fondée.
C'est une citation, hein, ce que je viens de faire.
Je pense qu'il y avait une analyse théorique qui était assez bien fondée, de voir que maintenant, c'est le mouvement qui doit l'emporter, au fond, sur une doctrine clivante. Après, la réalisation, depuis 2 ans, les moyens, peut-être aussi la culture politique qui est plus résistante que la stratégie nouvelle, a fait que, aussi bien Jean-Luc Mélenchon que d'autres membres ont apparu plus clivants, notamment en utilisant ce qu'on appelle en anglais le hate speech, enfin le discours de la haine, ou la mise en scène d'ailleurs, la mise en scène de discours haineux, qui finalement, semble-t-il, s'est retourné. Sauf que, faut quand même dire une chose, là avec le recul historique, les élections européennes ont souvent marqué des surprises, elles n'ont jamais tué personne, si je puis dire. Hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais définitivement enterré des partis. On se souvient du PS Rocard, je crois que c'était 14%, il y avait une liste.
Il y avait une liste qui avait été envoyée par François Mitterrand, qui était une liste Bernard Tapie.
Voilà, je vous le fais pas dire. Effectivement, un petit peu manipulée par Mitterrand derrière, mais il y avait 14% pour le PS et ça n'a pas empêché le retour du PS ensuite au pouvoir très peu d'années après. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de fonction des élections européennes qui est d'ouvrir l'éventail, qui est de donner à l'électeur la possibilité aussi d'exprimer une cause, une adhésion forte. Là, on peut penser à la cause écologiste, qui est d'autant plus forte qu'elle se situe à l'échelle européenne. Peut-être que cette élection européenne, parce qu'elle est aussi une élection de mi-mandat, elle véhicule peut-être des choses nouvelles.
Elle avait été présentée, en tout cas, comme autre chose qu'une élection européenne. Il y avait un aspect plébiscitaire sur la personne d'Emmanuel Macron autour de cette élection. À tort ou à raison, Nicolas Rousselier.
Oui, mais finalement, elle est plébiscitaire aussi contre Laurent Wauquiez. Elle est plébiscitaire contre peut-être Jean-Luc Mélenchon. Donc, elle est plébiscitaire contre tous ceux qui apparaissent, à tort ou à raison, comme chef de parti et incarnant plus une organisation qu'une cause.
On va continuer à évoquer ces bouleversements de la vie politique française depuis les élections européennes en votre compagnie, Nicolas Rousselier. Je rappelle que vous êtes historien et maître de conférences à Sciences Po. On va évoquer aussi la réforme constitutionnelle qui se profile.